Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
Seconde nuit, Ernest Hemingway. Bonsoir à tous, bienvenue dans les nuits de France Culture pour cette seconde nuit, Ernest Hemingway. La semaine dernière, c'était Gérard de Cortanze que nous avions sollicité pour introduire le programme d'archives de la première des deux nuits que nous consacrons à Ernest Hemingway. Et aujourd'hui, c'est Guy Scarpetta qui nous fait l'amitié de nous accompagner pour la suite de notre voyage dans l'œuvre d'Hemingway. Dans l'œuvre, les nouvelles, les romans et les expériences vécues de l'écrivain qui les ont nourris. Guy Scarpetta, essayiste, critique et romancier lui-même, un nom familier aux auditeurs de notre chaîne. Bonsoir Guy Scarpetta.
Bonsoir.
Dans L'Immortalité, Milan Kundera, un auteur qui vous est particulièrement cher, Milan Kundera fait dialoguer dans l'au-delà, dans l'Olympe des Immortels, Goethe et Hemingway autour de leur postérité, du traitement dont ils sont l'objet dans le monde des mortels depuis qu'ils l'ont quitté. Au lieu de lire mes livres, ils écrivent sur moi, dit Hemingway. Il paraît que je n'aimais pas mes épouses, que je ne me suis pas assez occupée de mon fils, que j'ai cassé la gueule à un critique, que j'ai manqué de sincérité, que j'ai été orgueilleux, que j'ai été macho, que je me suis vanté de 230 blessures de guerre quand j'en avais seulement 206, que je me suis masturbée, que j'ai été méchant avec maman. C'est l'immortalité, que voulez-vous ? L'immortalité est un éternel procès, répond Goethe. Si procès il y eut d'Hemingway, post-mortem, mais peut-être aussi de son vivant, quelle a été la nature de ce procès? Sur quoi a-t-il porté? Sur quoi porte-t-il peut-être encore? Guy Scarpetta.
Je crois qu'il y a un énorme malentendu autour d'Hemingway, que le procès dont vous parlez en procède. C'est-à-dire que le préjugé courant s'agissant d'Hemingway, c'est de faire comme s'il n'était pas romancier. Voilà. C'est-à-dire que pour un certain nombre de gens, tout se passe comme si l'œuvre d'Hemingway n'était qu'un autoportrait et rien d'autre. Ce qui permet de confondre la personne réelle, les personnages, les expériences vécues, les thèmes imaginés, enfin on confond tout. C'est très important parce que par exemple, moi j'ai une vieille édition Pléiade, je ne sais pas si elle a changé depuis, mais qui est entièrement fondée sur ce préjugé stupide. C'est-à-dire que, par exemple, on a publié L'adieu aux armes avant de publier Le soleil se lève aussi, chronologiquement, alors que Le soleil se lève aussi a été écrit avant. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu que la lecture des différents récits d'Hemingway suive non pas la chronologie de leur écriture, mais la chronologie de son expérience à lui. Et je passe sur les notices disant « tel personnage n'est rien d'autre que le double d'Hemingway ». Je passe sur le fait que Hemingway a consacré un énorme soin artistique, par exemple, à recueillir des nouvelles qui étaient éparses. Et chaque recueil de nouvelles d'Hemingway répond à une volonté très précise de composition, de liens thématiques, de relations de contraste ou au contraire de similitude entre les différents thèmes. Et dans l'édition dont je parle, on a carrément détruit cette composition pour publier les nouvelles dans l'ordre dans lequel, non pas même dans lequel elles ont été écrites, mais dans l'ordre de la chronologie de la vie d'Hemingway. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi. Et le préjugé est énorme, quoi. Alors, je crois qu'il faut dire que les relations d'Hemingway à l'autobiographie sont complexes. Et qu'il faudrait pas y aller à l'emporte-pièce en faisant comme s'il n'avait rien fait d'autre que faire son autoportrait en permanence. Bon, les textes d'Hemingway n'ont pas tous le même statut. Il y a les chroniques, par exemple les textes qu'il a écrits juste après la guerre sur la libération de Paris, etc., qui sont des chroniques de type journalistique. auquel on peut rattacher un petit reportage sur le fascisme italien, d'un très beau texte qui s'appelle « Qui est édité chez la Patria » et qui est une sorte de chronique sur l'Italie fasciste. Bon. Il y a des livres ouvertement autobiographiques, notamment le cycle de Nick Adams, qui est consacré à des thèmes ou à des motifs qui relèvent plutôt des souvenirs d'enfance. Paris est une fête, et d'une certaine façon un livre autobiographique, mais pas tout à fait, parce que lui-même disait c'est une autobiographie par ricochet. C'est-à-dire qu'il a surtout voulu parler de sa vie à Paris, mais surtout des rencontres qu'il avait faites à Paris. C'est-à-dire c'est un livre qui est passionnant pour saisir de l'intérieur ce qu'étaient Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, ou Ezra Pound. Hein. Comme par hasard, des écrivains d'avant-garde. C'est ceux-là qui l'intéressaient. Et Joyce, qui voyait de loin, mais qui le passionnait. Bon, c'est une autobiographie à travers le portrait qu'il fait de personnages qu'il a rencontrés. Bon, il y a les essais, où la part subjective est présente dans les thèmes, mais pas du tout dans l'écriture, comme le grand essai qu'il a fait sur les courses de taureaux, Mort dans l'après-midi. Il y a les textes intégrant une expérience personnelle, notamment dans toutes les nouvelles sur l'Afrique, ou dans un livre comme L'adieu aux armes, qui transpose de manière très très légère l'expérience qu'il a vécue sur le front italien pendant la guerre de 14-18. Il y a les textes qui sont de vrais romans, c'est-à-dire où il y a une part des sujets qui répondent à une expérience qu'il a vécue, mais où il y a un récit qui est organisé autour de personnages, et il ne s'agit pas du tout de faire de... C'est même pas de l'autofiction. Alors je rattacherai à ça Le soleil se lève aussi, par exemple. Bon, où il y a des personnages, il leur arrive des choses, et c'est pas forcément la vie d'Hemingway. L'adieu aux armes, qui répond, je viens de le dire, à son expérience de la guerre, mais va au-delà, puisque c'est surtout la chronique d'un amour impossible et d'une mort annoncée. En avoir ou pas, Hemingway a fait de la pêche aux gros poissons, au merlin ou à l'espadon, mais il a jamais été commandant d'un bateau comme dans En avoir ou pas. Au-delà du fleuve et sous les arbres, Hemingway n'a jamais été un colonel de l'armée américaine. Faisant le bilan de sa vie, il a été correspondant de guerre, et même le texte que beaucoup de gens prennent comme un texte de reportage autobiographique, qui est Pour qui sonne le glas, bon, en fait, Hemingway n'a pas participé aux brigades internationales, il n'a pas été dans la brigade Lincoln, à laquelle appartenait son personnage de Robert Jordan. Il était aux États-Unis pour faire de la propagande anti-franquiste, et il a fait un film avec Joris Evans. Bon, il a fréquenté les états-majors de l'armée républicaine, il a fréquenté les gens des brigades internationales, il a fréquenté les conseillers politiques ou militaires russes, pour qui il avait une énorme admiration, quant au conseiller militaire en tout cas, mais c'est pas son expérience réelle. Donc voilà, il y a tout ça chez Hemingway, et ce qu'on peut en retirer, c'est que l'histoire chez Hemingway n'intervient que comme une circonstance qui révèle une part de l'expérience humaine qui ne serait jamais apparue sans ces circonstances, et que ce qu'on peut retenir aussi, c'est que il y a un art d'Hemingway. Il y a un roman. Et les grands romans d'Hemingway sont des vrais romans, c'est-à-dire des récits ou des textes qui ne sont pas là pour énoncer une thèse, qui ne sont pas là pour dire la vérité établie, qui ne sont pas là pour entretenir une mythologie, mais qui sont là pour explorer certains aspects de l'expérience humaine. Bon, comme le disait Hermann Broch, comme le disait Carlos Fuentes, comme le disait Kundera, dire ce que seul le roman peut dire, c'est-à-dire explorer cette part de l'expérience humaine qui ne peut pas être atteinte par d'autres voies que celle du roman. Et je crois que les grands romans d'Hemingway répondent à cette définition. Ce sont aussi des textes où il y a parfois, pas toujours, mais parfois, une grande polyphonie, c'est-à-dire qu'il y a des voix concurrentes des voix qui s'opposent et dont aucune ne tient forcément la position que lui permettrait d'avoir raison. Et puis, c'est des textes où le jugement moral est suspendu. Ça, c'est quand même une chose essentielle. Hemingway n'est pas un écrivain moraliste.
Ça, nous y reviendrons plus tard, si vous voulez bien. Bon, mais
à mon avis, c'est un vrai romancier, et il y a un art, et puis il y a un style.
Pour en revenir au mythe Hemingway, aurait-il subi comme le retour de bâton du mythe du personnage qu'il aurait lui-même contribué à créer, le contre-mythe ou l'anti-mythe, en quelque sorte, répondant comme mécaniquement au mythe?
Je sais pas, à vrai dire, je trouve pas ça très intéressant. Voilà. Qu'est-ce que c'est le mythe d'Hemingway? C'est ce qu'il racontait sur lui au bar du Ritz ou au Harris Bar à Venise. Bon, ça n'a strictement aucun intérêt. On a une œuvre considérable, une des plus grandes œuvres romanesques du XXe siècle, et on ne va pas se permettre de l'apprécier en fonction de conversations de bistrot, où quand on a bu un coup de trop, on peut raconter des choses qui ne sont pas forcément vraies. Bon, non, ce qui m'intéresse, c'est l'art d'Hemingway. L'art d'Hemingway, c'est par exemple cet art extraordinaire de l'ellipse ou de la litote qui renverse complètement le rapport que le lecteur peut avoir au texte. Parce qu'un lecteur qui lit un reportage de journal ou qui lit une chronique, il se met simplement dans la position de dire ce qu'on me raconte est vrai. Ou ce qu'on me raconte est peut-être vrai. Bon. Mais quelqu'un qui lit Hemingway est amené à participer à l'élaboration du sens. Parce que précisément, l'essentiel est tu. Et très souvent, il y a un art de la litote, il y a un art de la... Bon, beaucoup de gens en ont déjà parlé. Il y a un art de l'ellipse, mais qui est très étonnant parce que c'est ça. Alors que, stylistiquement, ça pourrait paraître très simple. Et Hemingway lui-même disait, mais faut pas tomber dans le piège, que il s'était inspiré des règles de l'écriture journalistique pour écrire ses romans. Donc c'est vrai que c'est aussi simple qu'un article de journal. Mais en même temps, le mystère, le non-dit, le latent, le caché, implique une activité du lecteur.
La fameuse théorie de l'iceberg.
Voilà, la fameuse théorie de l'iceberg, c'est-à-dire Hemingway avait en substance, disait qu'un grand roman, c'est comme un iceberg. L'essentiel, c'est pas dans la partie émergée, c'est dans la partie immergée, c'est dans ce qui est sous l'eau et ce qu'on voit pas. Bon. Et ça, il y en a des milliers d'exemples, quoi. Bon, on ne sait pas dans le soleil se lève aussi pourquoi deux personnages qui devraient être amoureux et vivre ensemble, qui sont Brett et Jake, ne peuvent pas. On ne sait pas. On doit le deviner. Jake évoque à un moment une blessure de guerre, bon, etc. Mais ces autres comparses, c'est là que la pluralité des voix est importante, laissent entendre qu'il est peut-être tout simplement impuissant, que la blessure de guerre n'est peut-être qu'un prétexte. Bon, Brett, elle a une attitude très bizarre. C'est une femme riche qui fait la vie, c'est une femme très libre, etc. Mais en même temps, on sent qu'elle a une espèce d'appétit sexuel, comme ça. Elle saute sur les hommes qui lui plaisent, et elle les agrippe, etc. Et en même temps, elle n'en est jamais satisfaite. Bon, il y a au milieu de cette espèce de jouissance triomphante, on sent une espèce de frigidité de fond, une espèce de quelque chose de latent. Bon, le psychanalyste dirait qu'il y a un coefficient d'hystérie dans son personnage, quoi. Elle est obsédée par la sexualité, mais au fond, n'aimant pas ça. Bon, voilà. Mais pourquoi? On ne sait pas. On doit le deviner.
Oui, la blessure n'est jamais dite.
La blessure n'est jamais dite. Même dans Au-delà du fleuve et sous les arbres, par exemple, il y a une scène d'amour entre le personnage principal, le colonel Campbell, et Renata, qui est la jeune fille de 18 ans dont il est amoureux, alors qu'il en a 50. Mais dans cette scène, on peut la relire 10 fois, est-ce que ça se concrétise vraiment ou pas? On ne sait pas. Or, c'est très important, tout le reste peut en dépendre. Est-ce qu'ils deviennent amants ou est-ce qu'ils se contentent d'un amour platonique qui est plus conforme aux convenances, à la différence d'âge, etc. Mais bon, on ne le sait pas. Hemingway laisse ça totalement dans l'ombre. Donc il y a dans tout ça un rôle actif du lecteur, et je crois que ce qui est important, c'est que les grands romans d'Hemingway ne sont pas des autobiographies déguisées. Ce sont des romans en tant que tels.
Pour en revenir à la biographie, justement, dans « À la recherche du présent perdu », cinquième partie de son essai « Les testaments trahis », Milan Kundera démonte la biographie d'Hemingway de Jeffrey Meyers de 1985. Il s'arrête sur le passage dans lequel Meyers inflige à la nouvelle « Colline comme des éléphants blancs » au « Paradis perdu » un traitement de choc aboutissant à la complète dévitalisation de cette nouvelle pour servir sa thèse de départ, à savoir que « Colline comme des éléphants blancs » serait la traduction de la réaction d'Hemingway à la deuxième grossesse de Hadley, sa première femme. Est-ce à dire que Hemingway a été un auteur mieux compris par les écrivains que par le public et peut-être aussi que par les critiques, Guy Scarpetta?
Bon, le public, c'est très difficile à savoir. Je crois qu'Hemingway a été beaucoup mieux compris par les écrivains que par les universitaires, en tout cas. Ça, c'est évident. Il y a quand même, autour d'Hemingway, cette attitude qui consiste à vouloir que chaque nouvelle soit une confession, renvoie à un secret caché, bon, etc. Bon, c'est absurde qu'on essaye de regarder les nouvelles comme des œuvres d'art. Bon, parce que la théorie de l'iceberg, elle est là même dans les nouvelles. Bon, l'histoire de Francis Macomber est extraordinaire, par exemple, un texte très court. Un homme qui va chasser le lion en compagnie de sa femme et avec un coach, bon, est saisi de l'acheter. C'est-à-dire qu'à un moment, quand un lion blessé va vers lui, il fuit. Et sa femme manifeste immédiatement un mépris total, couche avec le coach, revient, et ce type, Francis Macomber, le lendemain va chasser le buffle, et d'un seul coup, c'est soudain, il sent que son courage revient. Il affronte un buffle qui charge, le coach est prêt à l'épauler parce qu'il prend vraiment des risques, il est devenu tellement courageux qu'il prend des risques, et à ce moment-là, sa femme tire. Et c'est lui, Francis Macomber, qui est tué. Est-ce que c'est cette espèce de désamour, de haine et de mépris qui persiste et qui fait qu'elle a déguisé un crime en accident, ou est-ce qu'elle s'est simplement trompée en tirant, est-ce qu'elle a fait une maladresse, une erreur, et que c'est vraiment un accident? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est à nous d'inventer. Hein, c'est à nous. Bon, c'est-à-dire, Hemingway sollicite l'imagination du lecteur.
Dans le sous-texte, en fait.
Dans le sous-texte. Il y a même un texte. Ah, bon, un exemple extraordinaire, c'est une petite nouvelle qui date de l'époque de la Prohibition et de la Grande Dépression américaine, qui s'appelle Tueur, qui se passe à Chicago. Bon, l'histoire de départ, c'est un boxeur qui avait accepté de la part d'un gangster de l'argent pour perdre un match afin de fausser les paris. Et qui, une fois sur le ring, a oublié et a gagné le match. Et du coup, les gangsters viennent le tuer. Pour que ça ne serve pas d'exemple. Bon. Il raconte cette histoire, sauf qu'il n'est jamais question du match de boxe. Il n'est jamais question des gangsters. Il n'est jamais question du marché. Il n'est jamais question de la vengeance. Il se contente de décrire deux tueurs qui viennent tuer un type qui sait pourquoi et qui en même temps s'y résigne. C'est tout. Donc l'essentiel est à réécrire. Enfin, c'est là pour moi, pour la raison pour laquelle Hemingway est un grand écrivain moderne, c'est que le lecteur participe à la création du sens, au moins autant que chez Joyce ou chez Mallarmé ou chez n'importe quel écrivain d'avant-garde.
Vous écrivez qu'avec Hemingway, mais aussi avec Faulkner, le roman s'est réinventé en répondant au défi que lui lançait le cinéma. Oui. Quel était ce défi lancé par le cinéma et comment ces deux auteurs, Hemingway plus particulièrement, y ont-ils répondu?
Ben, Faulkner, il a intégré à l'art du roman le flashback, des techniques de cinéma, la gamme des plans, la pluralité des points de vue, et Hemingway... il a inventé une forme extraordinaire de dialogue, qui est un dialogue où le dialogue ne sert pas seulement à illustrer ce qu'est un personnage, à dire ce qu'il pense, mais à faire avancer l'action. Bon, et ça, c'est le grand art du cinéma. Bon, y a un très beau texte d'Éric Rohmer qui parle de la manière dont, et Dieu sait si les dialogues d'Éric Rohmer ont quelque chose de délibérément artificiel, mais il dit que les dialogues ont tous quelque chose de nécessaire et de vraisemblable. Il faut que le dialogue soit utile à la progression de l'action, ou à la compréhension des personnages, ou à la compréhension des situations, mais en même temps, il faut que ce soit des dialogues tels qu'on pourrait en entendre dans la rue. Bon, et Minuet, c'est ça. Les dialogues des Minuet condense à la fois la progression de l'action, la compréhension de certains personnages, la compréhension de certaines situations, et une sorte d'hyper-réalisme qui fait qu'on a l'impression qu'on pourrait entendre ça à n'importe quel comptoir de bistrot, voilà. Et les dialogues amoureux sont magnifiques, il n'y a pas un seul élan lyrique. Les dialogues, notamment entre Renata et le colonel dans Au-delà du fleuve et sous les armes, les dialogues entre le Maria, le petit chevreau, et Jordan dans Pour qui sonne le glas.
Dans L'étrange contrée aussi.
Dans L'étrange contrée, ce sont des dialogues amoureux sobres. Mais ça ressemble beaucoup plus à ce qu'est un vrai dialogue amoureux, où là aussi, on peut, le flot de sentiments peut passer dans la litote.
Selon Milan Kundera, saisir la structure de la conversation réelle fut certainement l'une des obsessions artistiques d'Hemingway. Vous souscrivez à cette assertion ?
Tout à fait, je viens de le dire. Tout à fait, oui, bien sûr. Faut que ça ressemble à un dialogue de la vie réelle. Oui. Ce que très peu d'écrivains savent faire. Alors, j'en profite pour dire que le grand rival, c'était Faulkner. Et en effet, d'un côté, on ne peut pas imaginer plus différent. L'un est un baroque, l'autre est un homme de la litote et de la sobriété maximale. L'un est un homme du foisonnement, l'autre est un homme de la concision. Je veux dire, d'un point de vue littéraire, ils sont extrêmement différents les uns les autres. L'un fait foisonner les métaphores, l'autre leur donne un rôle. Mais très très précis, très limité et très concis. Bon, donc on peut très bien dire que c'est deux écrivains qui stylistiquement sont aux antipodes. Ils ont quand même un énorme point commun, et c'est l'iceberg. Quand on lit un chef-d'œuvre comme Absalon de Faulkner, on a une histoire qui est reconstituée à travers des témoignages, à travers des souvenirs, à travers des témoignages de souvenirs et des souvenirs de témoignages, etc. Et plus on avance dans la compréhension de cette histoire, plus ça devient obscur. Chaque élément nouveau obscurcit le mystère au lieu de l'éclaircir. Et on a un texte qui est totalement vertigineux de ce point de vue-là. Eh bien, chez Hemingway, c'est pas la même technique, mais on a ce même sens du texte mystérieux. Du texte qui aboutit non pas à un éclaircissement, à une explication, à une thèse qui pourrait coiffer la narration, mais à un mystère, à quelque chose qui échappe. Voilà. Et donc moi, bon, personnellement, j'aime autant Hemingway que Faulkner, mais même si j'aimais un peu plus Faulkner, ça n'aurait aucune importance. Mais je ne crois pas qu'on puisse les opposer, en tout cas. C'est pour ça que je déplore que dans cette émission nocturne consacrée à Hemingway, on ait sollicité quelqu'un comme Maurice Edgar Coindreau, qui a été un formidable traducteur de Faulkner. Si Faulkner existe en français, c'est grâce à Coindreau. Si Claude Simon existe, c'est grâce à Coindreau autant qu'à Faulkner. Bon, il a fait passer la langue de Faulkner. Coindreau est un type formidable, peut-être un des meilleurs traducteurs qu'on ait eu. Et il a même traduit Goïti Solo au début, donc il n'était pas limité à un champ linguistique. Simplement, il était tellement fasciné par Faulkner qu'il se croyait obligé de détester
Hemingway. Bon. Mais il me semblait important d'entendre cette voix dissonante, ne serait-ce que pour que vous en parliez.
c'est jamais très important quand un type qui a une œuvre admirable dit une connerie, de mettre l'accent uniquement sur cette connerie. Voilà.
Nous parlions du cinéma. Comment jugez-vous les adaptations des romans d'Hemingway au cinéma ? Le soleil se lève aussi, notamment, dont nous entendrons une lecture par Michel Bouquet dans cette nuit.
C'est la grosse cavalerie hollywoodienne. Justement, je crois...
Ça manque d'iceberg.
Je crois que Hemingway pensait beaucoup aux adaptations possibles de ses livres. Mais à mon avis, c'était essentiellement pour des raisons financières. c'est inadaptable, précisément. Ce qui se passe entre Maria Pilar et Robert Jordan est inadaptable. Et puis, les acteurs hollywoodiens répondent pas au corps des Minuets. Non, moi je crois que c'est une fausse bonne idée. C'est des récits qui s'y prêtent, mais à chaque fois on ne peut que rater l'essentiel. Voilà.
Si, comme le dit Milan Kundera, le sens et la valeur d'une œuvre peuvent être appréciés seulement dans le grand contexte international, dans quel grand contexte international du roman faut-il apprécier ce que fut l'apparition de l'écrivain Ernest Hemingway, Guy Scarpetta?
Bon, il y a plusieurs contextes possibles. On peut le regarder dans le contexte de la modernité, c'est-à-dire voir qu'il y a un grand renouvellement de l'art romanesque au début du XXe siècle, avec Joyce, avec Proust, avec Kafka, etc. Et Hemingway et Faulkner arrivent dans la foulée. Qu'est-ce qu'ils apportent? Bon, on peut faire ça. On peut aussi essayer d'évaluer Hemingway dans le contexte de la littérature de guerre. Ça, c'est une chose intéressante, parce que il y a une phrase d'Hemingway que j'adore, mais les mauvais écrivains aiment toujours l'épopée. Ça, c'est une vraie phrase de romancier, ça. Bon. Le roman naît précisément avec Rabelais et avec Cervantes au moment où l'un et l'autre se moquent de l'épopée ou de la chevalerie. L'Iliade, c'est pas un roman, c'est une épopée. Quichotte, c'est un roman. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que ce conflit entre l'épopée et le roman, on dirait qu'il se rejoue à toutes les époques du roman. Hein ? C'est la vision de Waterloo qu'a Fabrice chez Stendhal, par opposition à la vision de Waterloo qu'a Victor Hugo dans Les Misérables. Bon. La Deuxième Guerre mondiale, il y a d'un côté la vision épique, ça s'appelle André Malraux, ça s'appelle Ernest Jünger, Orage d'acier, ça c'est plutôt la Première Guerre mondiale d'ailleurs, ça s'appelle les poèmes patriotiques d'Aragon, qui relèvent du souffle épique, et puis il y a l'art de la démystification de la guerre, l'art de la saisir de la manière la plus désabusée qui soit, de lui arracher toute idéalisation, et ça s'appelle Hemingway, ça s'appelle Louis-Ferdinand Céline, ou ça s'appelle Claude Simon. Voilà. Non, il y a plusieurs contextes qui peuvent être éclairants.
Et ça, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais quels ont été les auteurs qui ont le plus influencé, marqué Hemingway? Flaubert, notre maître le plus respecté, disait-il, Maupassant, Tourguenieff?
Ça, c'est ceux qui l'aimaient. Je crois pas qu'un vrai artiste ou un vrai écrivain soit influencé. Jamais. C'est lui qui influence.
Et justement, parmi auteurs...
Pour revenir à ce que vous dites, j'ai relu Flaubert autrement après avoir lu Hemingway. Après. Donc c'est Hemingway qui m'a ouvert quelque chose de Flaubert. C'est jamais dans l'autre sens.
Et parmi les auteurs qui ont été comparés à Hemingway, il y a en France quelqu'un dont on a peut-être oublié qu'elle était surnommée l'Hemingway française.
Décidément, l'amant de Marguerite Duras n'arrête pas de voler de succès en succès. Non seulement la romancière a vendu son livre à 1,5 million d'exemplaires en France, mais il est devenu un best-seller aux États-Unis. Témoin de ce succès, le prix Ritz Paris Hemingway que Marguerite Duras a reçu aujourd'hui. Ce prix récompense le meilleur roman international publié en langue anglaise et son auteur est choisi parmi 70 romanciers du monde entier. Le reportage de FR3 Île-de-France.
Le trophée, une plume dans les mains du lauréat, un chèque, 350 000 francs, mais surtout un nom qui était déjà sur toutes les lèvres dès avant l'annonce officielle. Le tout Paris était là pour assister à la remise du deuxième prix Ritz Hemingway. Présent Jack Hemingway, le fils de l'écrivain. L'hôtel Ritz, c'est un peu un ami de la famille, a-t-il rappelé. C'est Hemingway, le père, qui a libéré le Ritz en 1944 avec 70 de ses hommes. Reste le lauréat du prix, annoncé par le président du jury, Pierre Salinger.
Marguerite Duras.
J'ai toujours eu une passion secrète pour Hemingway. Une très grande passion, enfin, comme une sorte d'amour pour tout ce qu'il a fait.
L'amant, déjà couronné, 2 millions d'exemplaires en France, traduit en 20 langues, alors pourquoi le prix Hemingway? Duras s'explique et au passage règle quelques comptes.
Le véritable prix, c'est le prix Hemingway. J'étais déjà... le prix Hemingway n'a pas besoin de Duras. Le prix Goncourt crevait si je n'étais pas venu, si je n'avais pas été là. J'étais quand même à 200 000 exemplaires déjà lorsque j'ai eu le Goncourt. Et ils l'ont donné parce qu'ils étaient forcés de le faire. Tandis que là, vraiment, c'est... Ça a été comme ça, en toute liberté, je crois, et en... dans une préférence véritable qu'ils m'ont donné le prix. Donc le vrai prix pour moi, c'est le prix Hemingway.
Nous venons d'entendre Marguerite Duras, c'était le 7 avril 1986, lors de la réception du prix Hemingway, et ça se passait bien entendu au Ritz. Duras, Hemingway, Guy Scarpetta.
Oh, c'est évident. Peut-être surtout d'ailleurs les premiers romans de Marguerite Duras, notamment le Marin de Gibraltar, mais y a cette théorie de l'iceberg, quoi. C'est-à-dire qu'il y a chez Duras ce fait que l'essentiel peut ne pas être dit, que le lecteur est là pour deviner plus que pour recevoir quelque chose qu'on lui assènerait de manière assertive. Il y a toujours dans Duras, c'est magnifiquement ces zones de fuite, d'indécision, d'évanescence, y compris des événements. Et puis il y a cet art formidable du dialogue, bon, qui est bon, elle est de la famille des Hemingway, c'est évident. Je ne veux pas dire qu'il l'ait influencé, encore une fois, manifestement, ils font partie de la même famille. Et je crois que c'est y compris l'amant, qui est pas du tout le livre le plus mystérieux ou le plus elliptique de Duras. L'amant est un livre où on a l'impression que tout est dit. Eh bien, c'est pas vrai. Tout n'est pas dit. Relisez-le, vous verrez que tout n'est pas dit.
Et quels autres auteurs feraient partie de cette même famille, selon vous ?
Ça, c'est une colle. À vrai dire, j'y ai jamais pensé.
Dans les années 30, entre des écrivains européens comme Hermann Broch et Musil en Europe et Hemingway ou Faulkner en Amérique, de quel côté de l'Atlantique était la modernité ?
Il n'y a jamais eu une modernité. Il y a une grande modernité d'Europe centrale avec Kafka, avec Broch, avec Musil. Il y a une modernité américaine avec Faulkner et Hemingway. Il y a une modernité anglo-saxonne plus générale avec Joyce. Il y a une modernité française avec Proust et Céline. Bon, on n'est pas à l'Euro de football. Hein, la littérature, c'est pas des équipes nationales. Voilà.
Au fond. Pour conclure cette première partie, en quoi Hemingway a-t-il essentiellement réinventé ou renouvelé la forme romanesque ?
Mais parce qu'il a, c'est très très subtil, donné l'impression d'être un écrivain réaliste. C'est-à-dire de décrire des actions et de rapporter les paroles comme si on était au cinéma. Et c'est pas vrai. La preuve, c'est que les films sont pas bons. C'est que les films disent rien. Et c'est pas vrai. Et en fait, il a utilisé cette technique cinématographique. Bon, quand vous voyez un personnage au cinéma, vous savez pas ce qu'il pense, vous savez pas ses intentions, à moins qu'il ne les manifeste d'une manière ou d'une autre. Un romancier peut parfaitement dire il faisait ça tout en pensant à autre chose, etc. Bon. Au cinéma, on est obligé de laisser deviner ce que les personnages ressentent, pensent, etc. à travers ce qu'ils font, ou leur mimique, ou leur geste, etc. Bon. Et Hemingway fait comme si le roman avait ce même type de limite, quoi. C'est-à-dire, il rentre très très peu dans l'intériorité. Il y a une grande ellipse, par exemple, des intentions chez Hemingway. Ou parfois, il y a des intentions et puis elles se concrétisent pas. Il y a toute une hésitation dans Pour qui sonne le glas sur le personnage de Pablo. Est-ce qu'il va trahir ou pas? Ça dure. Finalement, il trahit et puis à la fin, il trahit pas complètement. Bon. Il y a ce que j'appellerais réalisme, c'est-à-dire, il donne l'impression qu'on enregistre la réalité. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, on n'enregistre pas la réalité. En fait, on accède à des zones de l'expérience humaine qu'on connaît mal. Qu'est-ce qui fait que dans les mêmes circonstances, on peut être lâche ou courageux? Qu'est-ce qui fait que l'amour ne suffit pas à combattre la mort? Qu'est-ce qui fait que le camp qu'on choisit peut être déterminant quant à l'action qu'on mène, mais pas sur le regard qu'on porte dessus, etc., etc., des tas de questions. Et le côté apparemment phénoménologique, réaliste, il se contente de décrire, de raconter, d'enregistrer les paroles, c'est pas vrai. Il explore des zones très troubles, très très troubles.
Guy Scarpetta, merci. Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de cette seconde nuit consacrée à Ernest Hemingway. Dans un instant, Une vie, une œuvre, Ernest Hemingway, 1899-1961, par Jean Dev en 1995. Le premier temps de la lecture partielle du roman de Hemingway, Le soleil se lève aussi, par Michel Bouquet en 1957, sur France 4 Haute Fidélité. Écrivain dans la guerre, Ernest Hemingway, proposé par Olivier Weber en 2013. Guy Scarpetta, je vous retrouverai dans un peu plus de 2h30 pour la deuxième partie de cette nuit consacrée à Ernest Hemingway. À tout à l'heure.